Bienvenue dans l'émission Loin des clichés, un podcast qui vous présente les histoires de vie des personnes accompagnées par l'association Le Mail. Dans chaque épisode, nous vous invitons à découvrir les galères, les défis, mais aussi les revanches sur la vie de parcours atypiques. L'association Le Mail a pour but de préserver et d'améliorer la santé des personnes présentant des conduites addictives, des maladies chroniques et d'accompagner aussi leur entourage.
Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de Loin des clichés. Aujourd'hui, je me suis rendue au Mail pour faire ce petit épisode un peu spécial. Je suis autour d'une table avec plusieurs personnes qui vont se présenter.
Bonjour, donc moi je suis Elodie Kmessik, je suis psychologue à l'association Le Mail. Je travaille depuis un peu plus de 10 ans à l'association et là spécifiquement sur le XAPA, donc le Centre de soins et de prévention en addictologie. Ah oui, j'ai oublié l'accompagnement. Et voilà, et je pensais participer à cette émission pour parler d'une action spécifique. Là, ça fait quelques temps qu'on réfléchit à l'association à introduire des savoirs expérientiels dans l'accompagnement de nos usagers. En fait, au XAPA, on a essentiellement des professionnels qui ont un savoir théorique des addictions, donc des médecins, des infirmiers, psychologues, travailleurs sociaux. Et on souhaitait introduire la paire aidance au Mail. Et c'est dans ce cadre-là, du coup, qu'on a rencontré Michel.
Alors Michel, est-ce que vous pouvez vous présenter ?
Bonjour, moi je suis Michel, donc. Je vais envie de me présenter comme alcoolique et polytoxicomane, parce que c'est ce qui m'a amené, en fin de compte, au Mail, mais aussi ce qui m'a amené à suivre des soins et à me retrouver... à avoir envie de partager mon expérience. C'est aussi pour ça que j'ai souhaité participer à ce podcast, pour pouvoir un peu peut-être juste dire à certains auditeurs qui nous écoutent et qui seraient en vraie souffrance que c'est possible en fait d'arrêter de souffrir surtout. Et même si c'est pas facile, moi ça m'a mis beaucoup de temps, mais en tout cas on peut arriver à vivre une vie joyeuse, heureuse même, sans consommation de produits. Donc voilà, c'est pour ça que je suis là en fait.
Et du coup, vous vous êtes rencontrés dans le cadre de ce développement de la paire aidance. Mais qu'est-ce que c'est déjà la paire aidance, si on peut revenir un peu sur ce mot-là ?
La paire aidance, c'est un peu comme son nom l'indique, j'ai envie de dire. C'est pouvoir s'aider entre pairs, c'est-à-dire entre personnes qui ont vécu les mêmes choses, en fait, et pouvoir faire partager son expérience, justement. Ouais, j'ai une longue expérience déjà de consommation, mais j'ai aussi une expérience de tentative de soins jusqu'à un moment où j'ai réussi à trouver des solutions et de pouvoir faire profiter des gens qui, comme je l'ai dit juste avant, en fait, se sentent perdus et pensent qu'ils vont jamais y arriver, de dire « ben si, regarde, moi j'y suis arrivé ». Voilà, la paire aidance, c'est aussi aider, aussi, et c'est pour ça que je pense que le Mail a cette idée de faire appel à ça, mais c'est aussi pouvoir aider un peu dans certaines compréhensions les professionnels qui encadrent justement les usagers qui sont en demande d'aide, en ayant une compréhension un peu différente des difficultés qu'ils peuvent rencontrer, et puis aussi en faisant un peu une passerelle entre les professionnels et des usagers qui sont toutes dans leur peur et dans leur angoisse, et peut-être dans leur manque de confiance. C'est pas vraiment faire une passerelle en tout cas, mais c'est apporter un autre regard que celui que certains professionnels peuvent avoir, même si chaque professionnel de toute façon a un regard différent sur le parcours de chacun, mais voilà, c'est un autre regard, et je pense que c'est un regard intéressant dans la mesure où c'est une compréhension, un sentiment de savoir ce qui se passe dans la tête des gens qui sont comme ça perdus dans leur consommation en fait.
Alors, la paire aidance, c'est pas propre à l'addictologie, du coup, c'est vrai que là, c'est encore peu développé, enfin, c'est en plein essor là en ce moment, mais on a des paires aidants qui travaillent un peu dans d'autres domaines de la santé, des personnes qui ont été atteintes de cancer, en diabétologie. Il y a ce point de vue-là, cet autre regard que tu décris, Michel, on l'observe aussi, d'avoir ce sentiment de l'intérieur, de comment on peut percevoir le circuit de soins quand on arrive dans un hôpital ou quand on est face au vocabulaire, au discours des professionnels. Voilà, nous, on s'est formé là en addictologie pour avoir cette nouvelle approche professionnelle, mais d'un point de vue de l'expérience. On a été formé pendant une petite année par l'association France Patients Experts Addiction, qui nous a soutenus un peu dans cette démarche, et on est devenu terrain de stage pour voir un peu comment on pouvait bouger nos pratiques, construire peut-être un nouveau poste professionnel en commençant par le stage.
Moi, en tout cas, je peux que vous remercier déjà de m'avoir permis de faire mon stage ici, mais aussi d'avoir justement ce regard et cette croyance que c'est possible et que aussi, c'est un vrai poste avec des missions qui sont pas les mêmes qu'un éducateur, qu'un animateur, qu'un accueillant. Enfin voilà, que c'est vraiment un poste qui a son utilité, quoi, dans un service d'addicto comme dans d'autres services, hein, d'ailleurs. Parce que, ça peut... C'est vrai que c'est un sujet à la mode aujourd'hui, la pérédance, et ça a sûrement ses raisons. Donc voilà, ça, c'est bien que ça puisse se développer, et déjà pour les personnes qui se rétablissent et qui peuvent par là trouver peut-être un moyen de comment se rétablir encore mieux, justement en permettant d'avoir une activité rémunérée qui soit pour eux bénéfique, dans le sens où... Moi, par exemple, quand j'apporte de l'aide à quelqu'un, ça me fait du bien. Ça me rappelle aussi, moi, ce que j'ai vécu. Donc, ça m'empêche d'oublier. Mais en tout cas, ça m'aide à me sentir utile. Voilà, la plupart des toxicomanes ou des alcooliques, d'ailleurs, à un moment, ils se retrouvent à se sentir inutile, dans la sous-estime complète. C'est moi ce qui m'est arrivé, en tout cas, à moi. Dans l'isolement complet, parce qu'on a tellement honte qu'on n'a pas envie de se montrer. Donc on parle plus, on fait plus grand-chose d'ailleurs, sinon que de consommer et puis d'avoir des pensées plus que grises, noires, j'ai envie de dire. Et donc, retrouver un peu toute cette énergie, tout cet espoir en disant « peut-être je vais pouvoir aider quelqu'un à pas vivre ce que moi j'ai vécu », c'est vraiment un cadeau en fait. La réalité, c'est que moi, aujourd'hui j'ai 66 ans, je suis à la retraite depuis 3 mois, et si j'ai souhaité faire cette certification patient expert et venir faire un stage, alors que je pourrais très bien être tranquillement chez moi à rien faire, c'est parce que j'ai besoin de ça, de transmettre que t'es pas obligé de souffrir toute ta vie, mon ami, tu peux trouver des solutions. Voilà, peut-être je suis surtout là pour dire ça et aussi peut-être pour donner un peu de solutions, mais ça c'est plus compliqué parce que c'est pas que moi qui peux faire le truc, surtout pas d'ailleurs. La solution, je l'ai trouvée, j'avais 50 ans. Donc voilà, j'ai commencé ma première cuite, j'ai dû la prendre, j'avais 11 ans. Et du coup, ça fait un long parcours de se retrouver à 50 ans à trouver la solution. Et pourtant, je l'ai cherché pendant longtemps, en fait. Hein, et la fin de mon parcours, c'était le plus horrible, où j'ai fait des cures toutes les ans, où j'ai fait... j'ai essayé pendant 6-7 ans. En me faisant aider même, hein, c'est super important, les structures comme le MAI, heureusement qu'ils sont là, et moi ça m'a permis d'essayer de rester à peu près en équilibre, mais c'est surtout que moi j'étais déjà dans cet état de dépendance et d'alcoolisme et de toxicomanie depuis très jeune en fait, et que moi j'ai jamais cru ça, je me suis toujours dit je gère très bien, tout va bien, malgré les conséquences, hein, moi, 6 mois après avoir eu mon permis, il me le reprenait parce que j'étais alcoolisé au volant. Ça, c'était dans les années 80. Je me suis retrouvé recherché par la justice parce que j'étais passé au tribunal, que j'avais été condamné pour trafic. Il y a plein de périodes où, en fait, mes consommations, elles m'ont amené des conséquences complètement dingues. Et où je m'en rendais même pas compte, en fait. Je dis non, mais je gère, je suis libre, je fais ce que je veux, et personne n'a besoin de me dire ce que j'ai à faire. Et puis, en fin de compte, j'ai perdu beaucoup de temps. Enfin, c'est pas grave, j'ai pas envie de revenir en arrière en disant j'ai perdu du temps, c'est pas très grave. Mais je pense que j'ai fait souffrir beaucoup de gens, par contre, et de mes parents, mes enfants, la mère de mes enfants... Et même mes amis, de toute façon, quand je dis tout à l'heure qu'on se retrouve souvent tout seul, c'est parce qu'on est chiant, en fait, quand on se défonce. Et qu'on, surtout, on n'est plus crédible, on ment sans arrêt, surtout, on n'est plus... je veux dire, on n'est plus fiable, quoi. On ment, on vole. Et on se perd, hein, en fait. Voilà, je ne sais pas ce que j'ai besoin de dire. Je pourrais raconter tellement d'histoires un peu folles, mais...
Mais pour toi, du coup, qu'est-ce qui fait ? Parce que tu parles beaucoup là, des conséquences négatives et effectivement du fait qu'on a du mal à peut-être percevoir les conséquences quand on est dedans, en fait. Qu'est-ce qui fait la différence entre un professionnel qui a un savoir théorique à ce niveau-là et un professionnel comme toi, du coup, qui est père aidant certifié ?
Peut-être que celui qui m'écoute, enfin l'usager qui cherche de l'aide, il se rendra mieux compte. Enfin, je pense que moi... Peut-être moi, je vois mieux ce qu'il peut vivre juste au niveau de la souffrance, en fait. Et que lui, il aura le sentiment que moi, je le comprends mieux qu'un professionnel de santé ou quoi, en fait. Et que du coup, ce que je dis, ça a plus de valeur. Moi, je sais que c'est faux, hein, que, en tout cas, parce que chacun a son parcours. Et moi, ce que je peux ressentir, voilà, c'est pas forcément tout le monde qui ressent la même chose. Mais en tout cas, il aura... une certaine confiance peut-être ou une croyance que moi je ressens plus sa souffrance en fait. Je pense que c'est un peu vrai quand même d'ailleurs, même si j'ai connu des professionnels absolument incroyables et qui savaient très bien ce qui se passait, mais qui malgré tout... Moi par exemple, c'est pas moi tout seul qui vais pouvoir transmettre ce type de message en fait. Je parlais d'isolement, moi comment j'ai réussi il y a 15-16 ans à croire que c'était possible, c'est parce que j'ai vu plein de gens comme ça. Moi, j'ai beaucoup fréquenté les groupes de parole, les groupes d'entraide, et j'allais beaucoup en réunion. Et c'est ça qui m'a fait dire, ah ouais, ce qu'il raconte lui, c'est exactement ce que moi j'ai ressenti, ou même ce que je peux ressentir aujourd'hui. Et dans ces réunions, j'ai trouvé beaucoup d'aide parce que je pouvais exprimer ce que je ressentais. Un professionnel, il a ses horaires, il a ses rendez-vous, et c'est pas forcément quand je vais aller le voir que j'aurais ressentirai ça, ou que j'aurais besoin de le dire, en fait. Il n'est pas toujours là. Les amis, j'ai envie de dire, ou les gens comme ça qui sont prêts à m'aider. Mais là, ce n'est plus du professionnel. Hein. C'est juste, en tout cas, des pères qui sont, je ne vais même pas dire bénévoles, ils sont là parce que eux, ça les aide aussi, comme j'ai dit. Mais ce n'est plus des professionnels. Dans ces groupes d'entraide, il n'y a jamais d'argent en question, il n'y a pas tout ça. Et puis, c'est vachement important aussi. Je pense qu'il faut différencier, par exemple, un travailleur père d'un parrain chez Léa, par exemple. Ou, voilà, c'est pas la même chose, en tout cas. Mais le principe est un peu le même. Moi, ce que tu vis, je l'ai vécu, et je te dis que c'est possible que tu arrêtes de souffrir à cause de ça. Et que surtout, c'est important, parce que, voilà. Pour moi, la solution, elle est là. Moi, j'ai fait des cures de mes 44 ans à mes 50 ans, tous les ans, à peu près en été, je ne sais pas si c'est un signe, mais il fallait que je fasse un sevrage tellement que j'étais à bout, que je tremblais de partout, et je partais un mois en cure en général. Mon addicto, il m'avait prévenu, il me dit « Michel, si tu continues, que tu ne changes pas des trucs dans ta vie, tu n'y arriveras jamais. Il y a des choses à changer, notamment sur ta façon, peut-être au travail, enfin, que tu trouves un peu des loisirs, que tu vives... autrement, quitte à casser des trucs. Et en fin de compte, j'y suis arrivé, moi, quand je suis carrément... Enfin, de toute façon, avant de trouver cette cure en juin 2010, moi, j'avais plus de permis, il me l'avait annulé complètement, j'avais plus de travail, mon patron, il m'avait foutu à la porte. Enfin, j'ai envie de dire, parce qu'il a mis du temps. Et puis, la mère de mes enfants, elle m'avait dit, depuis quelques mois déjà, « Michel, il faut que tu t'en ailles maintenant, c'est plus possible. » Et j'avais fini par partir sans lui faire du chantage. De toute façon, si je m'en vais, je demande la garde alternée. Parce que là, j'étais tellement dans les consommations que je savais très bien que c'était pas cool pour mes enfants et qu'il fallait que je sois seul, quoi. Voilà. Et moi, à cette époque-là, après ces six cures, à chaque fois, je faisais des cures, je retournais chez moi, je repartais au boulot et je retrouvais mon train-train avec la mère de mes enfants qui me prenait la tête. Faut que je sois honnête, pauvre femme, elle a fait de son mieux, mais... Voilà, et sans que, par exemple, hein, une fois que je rentrais de cure, je rentrais le jour où je rentrais de cure, elle me dit ben « Michel, j'ai invité des amis ce soir, presque, elle ne m'a pas dit pour fêter ton retour, mais presque. » J'aurais pu reconsommer le soir même, en vrai, parce que tellement j'étais, ça me rendait fou, quoi. Mais ça, c'est même pas de sa faute, comme les parents qui peuvent se sentir coupables, ou comme, voilà, les... Je pense qu'au mail aussi, hein, vous accompagnez les familles, des fois, non ? Je pense que c'est important parce que les familles, elles se sentent coupables, mais la réalité, c'est que les familles, elles n'y peuvent rien. tout ce que, voilà, les familles, au contraire, quand elles essayent de nous aider, ça peut nous énerver 10 fois plus.
Et comment t'as réussi à t'en sortir, justement, après ces 6 cures, qu'est-ce qui s'est passé?
Ben justement, voilà, je me suis retrouvé dans une post-cure, donc, hein, j'avais fait un sevrage, il fallait que je sois abstinent de toute façon pour rentrer dans cette post-cure, qui est dans l'Aisne, qui s'appelle la Maison de Quête. Où là, le séjour déjà, c'était pas un mois, c'était 12 semaines, c'est-à-dire 3 mois. Et où tout était basé sur l'entraide entre pairs, donc, sur les résidents qui étaient là pour faire la même chose que moi, c'est-à-dire essayer d'arrêter de consommer. Et c'était basé sur... Alors, il y avait beaucoup un travail quand même de groupal sur parler de soi, parler de ce qu'on vit, parler de ses émotions. Je pense que... Souvent, moi, quand je vais être reconsommé, c'est parce que mes émotions, elles étaient tellement fortes qu'il fallait que je prenne un truc pour me calmer, en fait. Dans cette cure, quand ça n'allait pas, on parlait. Il fallait qu'on parle. Il y avait ceux qui étaient là depuis donc 10, 11 semaines, 12 semaines qui avaient beaucoup changé par rapport à quand ils étaient arrivés. Et puis, il y avait, par exemple, moi qui arrivais et qui les regardait comme ça. Il y avait des messagers aussi qui avaient fait la cure longtemps avant, qui venaient nous raconter leur parcours, leur vie. Et c'est là que je me suis dit, après tout, c'est vrai que peut-être je peux faire quelque chose. Et que donc, et c'était bien dit là, c'est pas tout seul que tu y arriveras, c'est en groupe, c'est en parlant de ce que tu vis avec d'autres qui vont te comprendre. Le principe, ou de narcotique anonyme ou d'alcoolique anonyme d'ailleurs. Et donc ces 3 semaines, elles m'ont beaucoup... Déjà, moi quand je suis arrivé, j'avais capitulé. Je savais qu'il fallait pas que je consomme, sinon de toute façon, je sais que je consommais trop et je me mettais dans des états minables et j'arrivais pas à m'arrêter. Donc il fallait que j'arrête... C'est pas l'obligation pour tout le monde, mais moi, mes consommations, il fallait pas que j'y touche. Si je m'approche de ce produit, je suis mort. Et puis, j'avais compris que j'avais besoin d'aide et qu'il fallait pas que je reste tout seul avec ça. Donc, pour ça, je suis même parti en région parisienne. Moi, ça fait 15 ans que j'habite en région parisienne, alors que je suis amiénois au départ. Enfin, pas vraiment amiénois, mais d'un bled à côté. Et j'ai vécu à Amiens 10 ans. Et je connais beaucoup de coins dans Amiens, même dans la prison. Enfin, voilà, c'est pas... C'est pas une gloriole d'ailleurs, mais je connais assez bien Amiens. C'est pour ça que je vais bientôt revenir à Amiens pour être proche de mes enfants et de mes petits-enfants. J'allais dire surtout, mais pas surtout, des deux, c'est autant d'importance. Mais je suis parti 15 ans en région parisienne. En m'expatriant comme ça, je me suis retrouvé, j'allais dire un peu tout seul, mais pas du tout. Je me suis retrouvé à avoir plein de nouveaux amis qui essayaient de faire la même chose que moi. Et donc, je me suis senti beaucoup épaulé, beaucoup aidé, et aussi par les structures d'ailleurs. Hein. Moi, j'ai été hébergé par un XAPA résidentiel. J'ai envie de faire de la pub pour Aurore, parce que c'est quand même une association qui cherche beaucoup aussi à pouvoir apporter à leurs résidents, usagers ou quoi, un suivi dans le parcours des maraudes, de la rue, jusque plus loin, et de leur proposer des solutions qui sont difficiles à trouver en France. Hein, l'hébergement, l'insertion, tout ça, c'est tellement compliqué en France. Mais il y a des voies comme ça. Moi, du coup, à 55 ans, j'ai eu mon diplôme de moniteur éducateur, donc je ne suis pas seulement père aidant, je suis aussi travailleur social, en fait. Mais ça, voilà, ça faisait 5 ans que j'avais rien consommé. Il faut du temps, en fait. C'est pour ça que c'est ce que je voulais dire, en fait. Quand vous dites comment t'y es arrivé, j'ai pris le temps, en fait.
Le temps et avec de l'aide des pères, finalement, on y revient.
Tout à fait. Des pères, mais aussi des structures. Hein, mais les structures, elles n'ont pas tous les moyens, malheureusement. Et puis voilà, j'ai rencontré des gens formidables.
Il y a un truc quand même qui m'interpelle depuis là, les 15 jours qu'on a passé ensemble. C'est vrai que tu utilises un vocabulaire qui peut paraître cru, quoi. Tu te présentes en tant qu'alcoolique, toxicomane. C'est pas des termes qu'on emploie en tant que professionnel, parce que ça a une connotation négative.
Et là, je suis plus professionnel, je suis retraité. Donc là, là, je suis là comme père aidant. C'est ça la différence. Moi, quand je me suis retrouvé... je vais dire éducateur ou travailleur social, j'étais dans une structure d'addicto, et j'étais professionnel, mais comme travailleur social. Donc j'aurais jamais parlé comme ça, en fait. Hein. J'essayais, voilà, moi, la chef de service qui m'a embauché, elle savait très bien mon parcours, elle connaissait, puisqu'elle m'avait aidé dans ce parcours. Mais elle m'a dit, Michel, j'ai besoin de toi pour que tu sois garant du cadre. Donc je n'allais pas me présenter comme un vieux toxico, et donc j'ai été garant du cadre. Hein. Moi, là-bas... où je travaillais, en fait, je vais le dire, à la communauté thérapeutique d'Aubervilliers. Là, s'il y a des gens qui m'écoutent, peut-être ils vont me reconnaître, mais c'est pas grave. Voilà, j'étais pas du tout... ne me présentais pas du tout comme un père aidant, je vais t'aider en tant que père et je vais pouvoir t'accompagner en tant que père. Non, moi j'étais professionnel en fait. Et puis au fur et à mesure, notamment après le Covid je pense, et puis surtout après une maladie, un cancer que j'ai eu, que j'ai dû soigner juste après le Covid, quand je suis retourné au boulot, j'avais peut-être un autre esprit un peu. J'étais un peu plus libéré, ou en fait, je me cachais moins dans mes difficultés, dans mon parcours et dans ce que j'avais pu vivre. Je me cachais moins, c'est très clair. Et du coup, voilà, et maintenant que je suis à la retraite, j'ai pas besoin de faire semblant, je crois. Et puis, il y a des mots qui parlent mieux que d'autres parce qu'ils parlent, voilà, c'est ça. Là, c'était un autre regard, c'est ça l'intitulé du podcast ou je sais pas quoi.
Loin des clichés.
Loin des clichés. Et voilà, mais moi, c'est loin des clichés. Moi, les gens à une époque qui me croisaient ne savaient pas que j'étais toxicomane. Ils ne pouvaient pas imaginer. Après, beaucoup savaient qu'un peu que j'étais alcoolique, mais quand même. Et voilà, que moi, je m'injectais ma substitution, que j'avais des plaies au bras, et que, voilà, même mes enfants ou la mère de mes enfants ne savaient pas. Et pourtant, c'est une réalité. Donc, aujourd'hui, je n'ai pas honte de dire que je suis toxicomane alcoolique, de dire que je le suis toujours, parce que si demain je prends un truc, il y a de fortes chances que je retourne dans le caniveau rapidement. Voilà, c'est dommage, quoi. Moi, j'ai des raisons hein, d'avoir consommé, mais surtout au début, je croyais que c'était la fête, en fait, hein, et la liberté. Aujourd'hui, j'ai envie de dire, oui, peut-être, je me suis bien amusé, c'est vrai, hein, j'ai eu des sacrés bringues, mais aussi j'ai eu beaucoup de souffrance, en fait, et beaucoup plus de souffrance, même pour des trucs qui ne semblent pas importants, mais qui sont, au fond de moi, ce qui me fait le plus souffrir. Voilà, moi, en 2010, là, dans cette post-cure à la maison de Kate, ils nous demandent de regarder un peu toutes nos conséquences, c'est-à-dire de regarder une journée où je me lève, je commence à me défoncer, et qu'est-ce qui m'arrive après ? Et qu'est-ce que je ressens aujourd'hui ? À cette époque-là, dans quel état je suis ? Aujourd'hui, qu'est-ce que ça me fait, en fait ? Par exemple, moi, une fois, je me suis retrouvé dans le coffre d'une voiture de police pour m'emmener en dégrisement, alors que le lendemain, j'allais faire mes 3 jours, donc j'étais assez jeune quand même, hein, et qui ne voulait pas me laisser sortir. Mais je rigolais comme un abruti, en fait. Ça me faisait trop rire. Alors qu'on venait de planter avec mon pote qui avait volé la voiture à son beau-père, on venait de planter 5-6 bagnoles, et tout ce qu'on faisait, c'était de rigoler. Aujourd'hui, ça me fait un peu moins rire, ça, en fait. Même si je trouve toujours que c'est la folie, c'est tout, c'est la folie. Par contre, un truc qui ne me fait pas rire du tout, c'est le jour où ma petite fille, qui devait avoir 3-4 ans, je revenais de cure depuis pas très longtemps. Et moi, j'ai eu des jumelles à 40 ans. Et donc, c'est pendant que la maman nettoyait une des jumelles, elle vient dans le salon et j'étais accroupi devant le bar en train de boire au goulot à la bouteille de Ricard. Tout de suite, elle m'a regardé, elle a crié « Maman, papa, il est en train de boire. » Ça, c'est beaucoup plus grave pour moi, en tout cas.
Vu votre parcours, aujourd'hui, vous aidez activement les autres. Vous avez passé un diplôme à 55 ans, et moi, je suis assez admirative. Et ma question, c'est, avec tout ce parcours-là, ces addictions, est-ce que c'est toujours difficile aujourd'hui de combattre votre addiction ? Alors même que vous travaillez toujours dans ces milieux-là, en tout cas les milieux qui aident, pour le coup, on est bien d'accord, mais qu'est-ce que ça vous fait, en fait, finalement, de travailler dans ces milieux-là et d'être toujours au contact avec ces personnes ?
Je pense que ça m'aide, en fait, hein, ça m'aide. Même si moi, aujourd'hui, ça fait longtemps que vraiment, pour moi, d'aller consommer, c'est pas la solution. Vraiment. Et j'y pense pas, en fait. Même quand il m'arrive des grosses couilles, au contraire, par exemple, quand on m'a déclaré mon cancer, jamais je me suis dit « je vais me défoncer pour faire passer ». Au contraire, je me suis dit « mais heureusement que je ne consomme pas pour pouvoir combattre cette maladie, en fait ». Après, je reconnais que pour soigner mon cancer, quand même, j'ai dû prendre certains produits qui défoncent, en vrai. Mais en tout cas, ce n'était pas pour moi comme si je me droguais ou comme si ce n'était pas du tout le même effet, en vrai. Et donc, voilà, je considère que je ne consommais pas. Pourtant, c'est la morphine, pourtant... Mais voilà, c'était... Et j'ai quand même ressenti un peu des histoires de genre de manque quand j'ai dû m'en séparer. Mais voilà, mais c'était pas la question. Moi, ça m'a tellement apporté... Dès que, de toute façon, je me suis aperçu que c'était pas obligé que je consomme, parce que pour moi, je pensais moi, il fallait que je consomme pour pouvoir vivre. Si je croyais ça, en fait, vraiment. Si je voulais être avec des gens, si je voulais discuter avec des gens, il fallait que j'ai un petit coup, il fallait que je sois un peu défoncé. Tellement, je pense, c'est peut-être une question de timidité, c'est ça qui a fait que j'ai commencé. De manque de confiance en soi, j'en sais rien. Mais en tout cas, dès que j'ai retrouvé cet espoir de me dire c'est possible, voilà, j'ai changé, en fait. Hein. Des fois encore, je me dis, mais quand je me vois réagir devant certaines situations, et je me dis, mais tu n'aurais jamais réagi comme ça avant. Tu vois, je m'étonne moi-même, en vrai. Et donc, c'est marrant que tu me poses cette question, parce que pour moi, c'était évident. Moi, les cadeaux que j'aurais reçus par tous ces gens que j'ai pu accompagner, notamment à la communauté thérapeutique, où voilà, la communauté thérapeutique, elle accueille des gens pendant 13 mois. Donc, on vit avec, hein, c'est une communauté. Et les gens, ils reviennent même après, et on les suit, et Paris, c'est pas si grand, même toute la région parisienne, mais même ceux qui repartent en province. Et donc, je les croise, ces gens-là encore. Moi, ma vie, elle a été bouleversée à 50 ans, mais je vois des parcours encore plus bouleversants que moi. Et de me dire que j'ai peut-être un peu participé à ça, mais je pense que ça aussi, même Élodie, elle connaît un peu ce cadeau d'accompagner les gens et de les voir sourire. Parce que c'est ça, c'est le cadeau du travers social, je pense. Et du coup, ce qui est marrant, c'est que il n'y a pas si longtemps, je me suis dit, peut-être justement maintenant, tu as accompagné beaucoup de toxicos, peut-être tu pourrais t'occuper d'autres personnes comme du handicap, l'autisme, et d'aller faire du bénévolat pour d'autres personnes, ça serait pas mal, ou même les vieux. Mais là, je me mets dans la catégorie, donc je ne suis pas sûr que ça va m'aider, c'est pareil. Ouais, je sais pas. Peut-être que quand je vais arriver à Amiens, je vais dire, bon, ben, ils sont tous gentils, parce qu'ils sont tous, j'ai été super bien accueilli au mail, ils sont tous très gentils, c'est vrai. Peut-être que je peux accompagner d'autres personnes un peu, ou même les SDF, mais ceux-là, ils sont un peu dans la catégorie, ils sont dans les deux, quoi, en fait, en vrai, souvent. Souvent, malheureusement.
Mais c'est vrai ce que tu poses comme question. Nous aussi, on s'est posé la question avant d'accueillir Michel ou d'ouvrir les portes du mail à un père aidant. Bah, notre préoccupation principale, c'est la sécurité des usagers, du professionnel qui arrive. Et c'est vrai que c'est pour ça qu'on a eu besoin d'être accompagné par l'association qui nous a formés. Et moi, ce qui m'a éclairée sur la sécurité du cadre, en fait, c'est l'une des conditions pour pouvoir, je vais dire, être certifié père aidant, patient expert, c'est d'avoir connu une période de rétablissement. Et donc, rétablissement ne veut pas dire l'abstinence, forcément. Enfin, la Michel, lui, l'a vécu comme ça et voilà, c'est sa manière, cette sortie de l'addiction. Aujourd'hui, il y a différentes approches, hein, la réduction des risques et des dommages. En tout cas, on considère comme rétabli quelqu'un qui ne rentre plus dans les critères de l'addiction, c'est-à-dire qui n'est plus en consommation continue, qui n'a plus de conséquences négatives, ou en tout cas qui arrive à contrôler sa consommation, il n'y a plus de craving. Déjà, en ayant cette expérience du rétablissement, il peut réfléchir à son parcours, à son expérience dans les consos et l'expérience, ça ne se transmet pas vraiment. Chacun a son vécu. On peut être père, mais chacun a sa propre expérience des produits, de quelles conséquences ça a eu sur sa propre vie. Et de pouvoir utiliser son propre parcours sans la transposer, la calquer sur un patient, ça, pour le coup, ça demande un petit peu de recul. Et je pense que c'est ça qui est rassurant avec les cursus, les dispositifs de formation à la père aidant, c'est que voilà, c'est pas anodin quand même comme métier. D'ailleurs, qu'on ait, comme tu le faisais remarquer, hein, qu'on ait un savoir théorique en étant psychologue ou travailleur social ou médecin, je pense que c'est pas anodin de travailler dans ce milieu et avec de l'humain tout court, qui peut être en souffrance, qui peut être très 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 en souffrance, puis qui renvoie aussi des choses de sa propre vie. Donc quand le cœur de son action et de sa démarche d'aide, c'est de partager quelque chose qui est de l'ordre de l'intimité, oui, je pense qu'il faut un petit peu quand même de recul et de l'avoir travaillé un peu en amont. Je pense qu'on ne débarque pas père aidant du jour au lendemain sans avoir un peu pris le temps. Enfin, je ne sais pas ce que tu en penses, Michel.
Ben, je suis tout à fait d'accord. De toute façon, moi, je pense que pour être père aidant, c'est pas la même chose donc d'être bénévole ou dans l'entraide entre pairs, mais être à Aurore, on appelle ça des travailleurs pairs en fait, parce qu'il y a une formation tout à fait pour être, pouvoir avoir le lien vis-à-vis de l'usager, de la bonne distance, j'ai envie de dire, la bonne écoute aussi d'ailleurs, et puis aussi certaines compréhensions de certains phénomènes. Hein, voilà, moi j'ai par exemple, je vais le dire parce que je pense que c'est important et que je pense que tous les Français devraient suivre cette formation. J'ai fait une formation premier secours en santé mentale. Et cette formation, elle est formidable pour comprendre un peu mieux ce qui se passe dans la tête de tous nos petits jeunes ou moins jeunes même qui ont des troubles de la santé mentale et qu'on puisse un peu mieux les aider, je pense. C'est important. Oui, je voulais revenir sur le fait de... C'est important, mais c'est aussi important de se former pour savoir être en équipe avec d'autres professionnels et qui nous acceptent en tant que tels, quoi, en fait. Parce que c'est pas forcément toujours évident non plus qu'un professionnel voit arriver dans son entourage d'équipe un père aidant et qu'il puisse l'accepter comme tel sans avoir peur qu'il prenne sa place, sans avoir peur. Donc voilà, et tout ça, c'est un travail qui s'apprend, je pense. Voilà, moi, aujourd'hui, je l'ai appris en étant réellement professionnel, donc c'est différent. Mais déjà, quand on est professionnel, s'entendre entre différentes fonctions dans des équipes pluridisciplinaires, c'est pas toujours évident. Donc là, un père aidant là-dedans, le pauvre, s'il n'est pas un petit peu prévenu, ça peut être compliqué pour lui, quoi.
Et toi, du coup, Élodie, qu'est-ce qui t'a donné envie d'aller vers, de faire cette formation et de participer à tout ça? Est-ce que c'est dans la continuité de ta carrière ou alors est-ce que c'était une envie particulière qui venait plus de toi?
Je pense qu'un peu des deux. C'est vrai que d'un point de vue institutionnel, le mail était là-dedans. On voit bien l'essor autour de la paire aidance. Et puis oui, dans ma pratique, je vois bien là ce que Michel peut décrire sur... en fait, on a beau être empathique et essayer de travailler sur nos postures. C'est vrai qu'il y a toujours un peu ce doute quand on reçoit des personnes. Surtout que nous, on reçoit des gens qui sont en démarche personnelle d'une part, mais on a aussi des gens qui sont en obligation de soins ou voilà, qui ne sont pas forcément contents de venir nous voir et on voit des fois des difficultés à créer le lien et il y a toujours cette... je pense qu'il y a souvent cette question auprès des usagers de se dire mais en fait oui, parle mais tu sais pas de quoi tu parles. Et d'ailleurs ils nous posent directement la question. Après la paire aidant c'est pas... c'est marrant parce que tu m'as dit ça Michel, tu m'as dit ah c'est intéressant parce que je suis fumeuse et il me dit c'est marrant tu t'as un peu le discours de fais ce que je dis parce que je fais. alors qu'en fait j'ai l'impression de faire vachement attention à pas être dans cette posture là, de dire bah voilà comment il faut faire, voici un protocole pour se sortir des addictions. La paire aidant c'est pas non plus bah tiens fais ce que je fais, moi j'y arrive très bien. Voilà, j'avais envie de m'intéresser à la paire aidance parce que ça bouscule nos pratiques. Voilà, la question de la juste distance que tu décrivais, Michel, je me disais, c'est important. Je pense que le paire aidant, il a une mission auprès des usagers, mais il intègre aussi une équipe et il nous fait réfléchir à nos pratiques. Et il a un rôle à plusieurs niveaux. Et moi, je trouve ça important qu'on reste pas dans... Enfin voilà, l'addictologie, ça a beaucoup évolué depuis une approche strictement morale à une approche strictement médicale. Bah là, voilà, on a introduit de plus en plus de connaissances, de pratiques, et puis on essaye de faire en sorte qu'il y ait des choses qui, enfin, de nourrir notre palette et nos outils pour accompagner au mieux les gens qui viennent nous voir, quoi.
Est-ce que vous sentez que vous voulez rajouter un dernier mot peut-être pour la fin?
Moi, voilà, comme je l'ai dit au début, hein, de toute façon, j'ai fait ce podcast juste pour pouvoir dire c'est possible de s'en sortir, en fait, parce que moi, j'y croyais pas et en fait, je m'en suis sorti. Et donc, je voulais juste dire ça. C'est vrai que moi, je sais très bien que si je touche à un truc, je vais redévier rapidement. Donc, il faut que je sois abstinent, en tout cas. Mais je comprends très bien qu'on puisse essayer de jongler jusqu'à certains points. Moi, j'ai pas du tout la prétention d'apporter des solutions, de dire... il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça. Mais moi, tout ce que je sais, c'est que quand je vais pas bien, il faut que je parle de ce que je vis et que je vais pas bien, en fait. Et qu'il faut que je trouve des gens qui m'écoutent. Et voilà. Et moi, les personnes qui m'ont écouté le plus, c'est des gens qui étaient comme moi, qui allaient pas bien non plus à cause de leurs produits, de leur consommation, et qui comprenaient ce que je pouvais leur dire quand je disais « Putain, j'y arrive pas, j'ai trop envie de consommer, il faut pas que j'y aille » et tout ça. Et qui, ces cravings là, dont peut-être certains auditeurs savent très bien de quoi je parle, ou que « Merde, je voulais pas, puis j'y étais, et puis je me suis mis minable. » Voilà, tout ça, je sais que ça existe. Il y a des gens qui ne comprennent pas bien ça. Le pire, c'est que je pense qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui comprend ça, en fait, à part ceux qui travaillent avec ça et ceux qui l'ont vécu. Et donc, moi, je veux juste envie de dire, gars, peut-être aujourd'hui tu souffres, mais peut-être demain tu peux voir le soleil et puis vivre une vie heureuse. Ça existe, quoi. Et il y a moi, mais il n'y a pas que moi. Moi, j'ai eu plein de cas autour de moi, quoi, de voir des sorties de rue incroyables. Moi, je vais juste terminer par un truc quand même. Comme ça, peut-être des gens me reconnaîtront encore plus, mais tant pis. Moi, en fait, j'ai élevé 4 filles. Les deux premières, je vais dire, je ne suis pas le père, c'est vrai, je ne suis pas le père. Mais quand je les ai croisées pour la première fois, elles avaient 7 ans et 2 ans. Je les ai accompagnées jusqu'au moment où, malheureusement, j'ai toujours été avec elles, hein, mais j'étais beaucoup moins présent, en fait, et pour mes jumelles et pour ces deux filles qui sont des femmes aujourd'hui. Toutes les deux m'ont demandé de les adopter à 35 et 30 ans. C'est en route et il y en a même une aujourd'hui qui a sa carte d'identité à mon nom, quoi. Ça, c'est un cadeau qui m'a créé qui me crée des émotions qui sont même pas imaginables, je crois. Ça, c'est pas possible si je consomme. Jamais. Et donc, j'ai envie de les embrasser. Pauline, Sophie, Emma et Louise, je vous aime.
Merci beaucoup. Merci pour ce témoignage. Merci, Elodie. Merci beaucoup d'avoir eu le courage de témoigner au micro. C'était très courageux. Merci beaucoup.
N'existe pas sans son contraire, qu'il lui semble facile à trouver. Le bonheur n'existe que pour plaire, je le veux. Enfin, je commençais à douter d'en avoir vraiment rêvé. Et si une envie parfois je me sens obligée, l'esprit n'est plus à la mode, c'est pas compliqué d'être heureux. L'esprit n'est plus à la mode, c'est pas compliqué. Tout, il faudrait tout oublier pour y croire. Il faudrait tout oublier. Son contraire, une jeunesse pleine de sentiments. L'ennui est inconditionnel, je peux ressentir le malaise des gens qui dansent. Essaie d'oublier que tu es seul, vieux souvenir comme la DSL. Et si tout le monde t'a délaissé, ça s'est passé après les soldes. Qu'elle t'a trompé, oublie que t'as perdu tout ce que t'avais. C'est simple, sois juste heureux. Si tu voulais, tu le serais. Tout, il faudrait tout oublier pour y croire. Il faudrait tout oublier, tout oublier. On joue, mais là j'ai trop joué. Ce bonheur, si je le veux, je l'aurai.
Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous souhaitez en savoir plus sur nos services, nos actions et nos projets, rendez-vous sur notre site internet asoc-lemail.net ou suivez-nous sur nos réseaux sociaux sous le nom de Association Le Mail. Vous y trouverez plus de détails sur nos services et accompagnements. À très bientôt pour un nouvel épisode de Loin des clichés.
Cette émission est réalisée en partenariat avec Radio Campus Amiens.